toujours pas maîtrisé dans la région de Los Angeles. Guillaume Nodin nous en dira plus. Il est sur place, mais d'abord le sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
Le football et les coupes africaines de clubs, trois nouveaux qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
À commencer par le champion en titre, l'Al Ahly du Caire, qui sans jouer profite de la victoire des Orlando Pirates 2-1 sur les Algériens de Belouizdad. Les Sud-Africains garantissent ainsi leur place en quart de finale et permettent aux Égyptiens de compter 4 points d'avance sur le CRB alors qu'il ne reste qu'une journée. Qualification également pour l'Espérance de Tunis, vainqueur 1-0 du Djoliba de Bamako dans le groupe D. Et enfin, malgré sa défaite 1-0 face aux Young Africans, l'Al Hilal Omdurman est sûr de rejoindre le tableau final de cette Ligue des Champions.
En Coupe de la Confédération, là aussi le casting des quarts de finale se précise.
Avec dans le groupe A la qualification du CS Constantine après sa victoire 3-0 sur Sfax. Dans la poule B, les Sud-Africains de Stellenbosch assurent leur deuxième place en battant le Stade Malien 2-0. Dans le groupe D, le Zamalek, vainqueur 3-1 de Black Bulls, profite du nul 1 partout entre Enimba et Al Masry pour valider son billet. Enfin, l'USM Alger lui a fait le boulot face à Orapa United en s'imposant 2-1 et se qualifie grâce au succès du Diaraf de Dakar 1-0 sur la SEC Abidjan. Succès précieux pour Malik Diaf et ses troupes.
C'est un match que nous avons bien préparé. On savait que ça n'allait pas être facile contre une belle équipe de la SEC. Je pense que notre entame a été meilleure et je n'ai pas aimé à ce moment. Je pense qu'arrivé à la mi-temps, j'ai apporté les correctifs. J'ai mis un peu d'élan offensif. On a créé quelques situations. On a manqué un peu de lucidité pour mettre le deuxième but. Après avoir étudié le match, je voyais qu'à un moment donné, l'équipe de la SEC poussait. Et aussi, je voulais gagner le match. Quel que soit le score, il fallait gagner pour préparer le prochain match. Parce que si on n'avait pas gagné, ça allait être fini. Donc, il fallait gagner. Nous sommes à 3 points maintenant de la SEC. La qualification est entre nos mains. Maintenant, on focus sur le prochain match. On prépare le match. Alger, Inch'Allah, il faut qu'on aille là-bas pour gagner ce match.
Malik Diaf avec Babacar Fall, le Diaraf à qui il suffira donc d'un nul la semaine prochaine face à l'USM Alger.
Au Nigeria, le nouveau sélectionneur arrive ce lundi.
Nommé la semaine dernière, Eric Sekouchel va diriger sa deuxième sélection après avoir amené le Mali en quart de finale de la dernière CAN. Le technicien franco-malien quitte le Mouloudia Club d'Oran seulement 3 mois après son arrivée. Choix difficile, comme il l'a expliqué sur le site du club algérien.
J'ai postulé au mois de mai au poste de sélectionneur du Nigeria. Et le processus a mis un certain temps. Il faut savoir que l'équipe nationale du Nigeria, c'est une grosse sélection. Sûrement l'une des 2-3 meilleures sélections en Afrique. Donc c'est vrai qu'à titre personnel, en tant que coach et en tant qu'homme, c'était un objectif pour moi un jour d'entraîner une grande sélection. Donc aujourd'hui, c'est un poste que je ne peux pas refuser. Par rapport au MCO, c'est vrai que je m'en veux. Je suis un petit peu égoïste parce que je veux partir là-bas pour donner une autre dimension à ma carrière, pour progresser en tant qu'entraîneur. C'est dur de quitter une deuxième famille, mais voilà, quand on veut réussir et quand on est ambitieux, il faut faire des sacrifices.
Eric Sekouchel qui aura quand même remporté son dernier match avec le Mouloudia d'Oran 1-0. C'était samedi sur le terrain de Sétif en 16e de finale de la Coupe d'Algérie.
Merci Antoine Grenier, vous revenez tout à l'heure à 7h13.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Le bilan s'alourdit aux États-Unis. Ce sont désormais 24 personnes qui sont mortes dans les incendies qui ravagent en ce moment Los Angeles et sa région. Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre, mais leur travail devrait se compliquer avec le retour de vent chaud et sec jusqu'à mercredi. Mayotte toujours en alerte rouge, au moins jusqu'à ce soir après le passage de la tempête d'Ikeledi qui a causé d'importantes inondations sur le territoire français déjà meurtri par le cyclone Chido. Les États-Unis où Joe Biden entame sa dernière semaine en tant que président. Lundi prochain marquera l'investiture de Donald Trump, son successeur. Le président américain doit aujourd'hui prononcer un discours d'adieu de politique étrangère. Et avec Joe Biden, le premier ministre israélien a discuté, je cite, des progrès réalisés dans les négociations en cours en vue de parvenir à un accord de libération d'otages dans la bande de Gaza. Quelques 300 soldats nord-coréens ont été tués sur les milliers déployés par Pyongyang en Russie pour soutenir sa guerre contre l'Ukraine. Information dévoilée ce lundi par un député sud-coréen qui cite le service de renseignement de Séoul. En Croatie, le président sortant, Zoran Milanovic, réélu haut la main hier avec plus de 74% des voix selon les résultats provisoires. Et puis Keir Starmer veut faire du Royaume-Uni le leader mondial de l'intelligence artificielle. Le Premier ministre britannique doit annoncer aujourd'hui un plan d'action qui doit attirer entreprises et investisseurs. En Ouganda, c'est aujourd'hui que doit reprendre le procès de l'opposant Kizza Besigye qui, selon son épouse, a été kidnappé il y a 2 mois au Kenya avant d'être transféré de force en Ouganda. Alors pourquoi une telle affaire et un tel procès en cour martiale qui vise l'opposant historique au président ougandais Yoweri Museveni? Christophe Boisbouvier revient sur ce dossier avec Florence Brisset-Foucault, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1 et affiliée à l'Université de Makerere à Kampala.
Florence Brisset-Foucault, bonjour.
Bonjour.
Depuis le 20 novembre, l'opposant Kizza Besigye comparaît devant la justice militaire ougandaise pour possession illégale d'armes à feu dans le but de déstabiliser la sécurité nationale. Est-ce que ce chef d'accusation est crédible ?
Alors, c'est pas la première fois que Kizza Besigye a été accusé de collusion avec des rebelles armés pour renverser le gouvernement. Ça avait déjà été le cas en amont de l'élection présidentielle de 2006. À l'époque, les accusations n'avaient absolument pas tenu. Il avait finalement été blanchi. Pour cette fois, bon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça fait partie de ces formes classiques de décrédibilisation de l'opposition qui sont utilisées par le régime.
Alors, ce qui frappe tout de même, c'est que Kizza Besigye, qui est médecin, qui est civil, comparaît devant un tribunal militaire.
Ah oui, tout à fait. Et ça fait partie des nouveautés, je dirais, des 4-5 dernières années en Ouganda. Et ça continue, même si il y a quelques années, en 2022, il y avait une décision de la Cour constitutionnelle qui disait que c'était illégal de poursuivre des civils en cour martiale, mais ça se poursuit et il n'est pas le seul à être dans ce cas. Il y a quelques jours, son avocat, Aaron Kizza, qui est lui aussi un civil, a été condamné à 9 mois d'emprisonnement pour outrage à la cour, par une cour militaire également, en quelques heures, et visiblement en toute irrégularité.
Donc ça ressemble à du harcèlement judiciaire.
Kizza Besigye disait lui-même, il y a quelques années, qu'il avait été arrêté des dizaines de fois et qu'il avait arrêté de compter. Donc oui, je pense que ce qualificatif est tout à fait idoine, je dirais.
L'épouse de Kizza Besigye, Winnie Byanyima, qui dirige le programme ONU-SIDA pour le monde entier, affirme que son mari a été kidnappé en novembre à Nairobi, puis transféré de force à Kampala. C'est quand même pas très courant. Comment se fait-il que le Kenya ait laissé faire cela ?
Oui, elle parle, Winnie Byanyima a parlé de paradis des kidnappeurs, pour parler de la capitale du Kenya, Nairobi. Donc c'est évidemment une formule très forte. Là encore, Kizza Besigye n'est pas le seul opposant étranger à avoir été arrêté récemment dans la capitale du Kenya. Il y a eu aussi des opposants turcs, sud-soudanais, rwandais, nigérians qui ont fait les frais de cette pratique. Concernant les Ougandais, c'est pas le seul non plus. En juillet dernier, il y a une trentaine d'opposants ougandais qui s'étaient rassemblés du côté de la ville de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, qui ont été aussi arrêtés violemment, puis mis dans des camionnettes et transportés de l'autre côté de la frontière pour être ensuite emprisonnés en Ouganda. Donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé.
Dans les années 80-90, le docteur Kizza Besigye était le médecin personnel de Yoweri Museveni, mais depuis 25 ans, il est son principal opposant. Il a aujourd'hui 68 ans, soit 12 ans de moins que le chef de l'État ougandais. Est-ce que Yoweri Museveni en a encore peur ?
C'est difficile à dire. Moi, la manière dont je vois cette arrestation qui a surpris beaucoup de monde, parce que Besigye n'était plus tellement sur le devant de la scène politique. C'était une autre figure de l'opposition, Bobi Wine, qui avait pris la suite, notamment lors de l'élection présidentielle de 2021, la dernière élection présidentielle. Et Besigye était plutôt en retrait. Donc, on a été un peu surpris de cette arrestation. Moi, la manière dont j'interprète les choses, c'est que c'est une démonstration de force et une manière pour Museveni de montrer que c'est toujours lui qui tient les règles du jeu.
À la présidentielle de l'an prochain, tout laisse penser que Yoweri Museveni, qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, va se représenter pour un 7e mandat. Quelles sont les chances de l'opposition face à lui ?
Les chances de l'opposition, elle est extrêmement fragmentée, éclatée, avec beaucoup de mal à créer des liens et à s'accorder pour une candidature unique. En 2021, donc, Besigye ne s'était pas présenté, ce qui a permis à Bobi Wine, entre autres, d'avoir un score tout à fait correct, 35%, en tout cas un score qui correspondait au score de Besigye à l'élection de 2016. Donc, on ne sait jamais, mais étant donné le passé récent, je ne suis pas très, très optimiste pour l'opposition.
Depuis 3 ans, l'un des fils de Yoweri Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, qui est chef d'état-major de l'armée ougandaise, aspire ouvertement à succéder à son père. Mais en septembre dernier, il a promis qu'il soutiendrait son père une dernière fois pour la présidentielle de 2026. Est-ce que ce fils impétueux n'est pas en train d'affaiblir le camp du président ?
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi un autre joueur dans cette arène autour de la question de la succession, c'est le gendre, en fait, qui s'appelle Audrey Rwabwogo, qui est mariée à la deuxième fille du président, la pasteur Patience Rwabwogo, et qui a été au départ assez critique de Museveni, puis qui s'est rapproché de lui. Et il y a quelques mois, il y a eu une violente dispute entre Muhoozi, donc le fils, et Rwabwogo, le gendre, sur les réseaux sociaux. Et beaucoup d'Ougandais interprètent cela comme étant une dispute par rapport à la question de la succession.
Florence Brisset-Foucault, je vous remercie.
Florence Brisset-Foucault, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1, elle répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Votre chronique matière première sur RFI, et ce matin on parle des réserves de lithium de la Chine qui ont quasiment triplé, faisant du pays le deuxième détenteur mondial de réserves de ce métal essentiel pour de nombreuses technologies, notamment des technologies liées aux énergies renouvelables. La Chine représente donc désormais 16,5% des réserves mondiales, derrière le Chili et devant l'Australie, l'Argentine et la Bolivie, selon le China Geological Survey. Les détails avec Cléa Broadhurst.
Des mines récemment découvertes au Tibet comprennent une ceinture de 2800 km de spodumène, un minerai de roche dure à partir duquel le métal peut être extrait. On estime qu'elle contient au moins 6,5 millions de tonnes de ressources en lithium, avec un potentiel pouvant atteindre les 30 millions de tonnes. Ajoutons à cela les lacs salés récemment identifiés sur le plateau tibétain. Avec plus de 14 millions de tonnes de lithium, ces réserves se classent désormais parmi les trois plus grandes du monde. Ce métal est un composant clé de la révolution énergétique mondiale. Indispensable à la fabrication des batteries lithium, il alimente véhicules électriques, systèmes de stockage d'énergie renouvelable et appareils électroniques. Avec l'urgence climatique et la transition énergétique, la demande mondiale de lithium explose. Et la Chine s'impose. Désormais deuxième détenteur mondial de réserves de lithium, elle renforce sa position d'acteur incontournable. Déjà leader de la production de batteries du secteur et maître d'une large partie de la chaîne d'approvisionnement mondiale, Pékin réduit sa dépendance à l'importation, notamment vis-à-vis de l'Australie et du Chili. Une avancée qui sécurise son accès à ce matériau stratégique et la protège des turbulences géopolitiques. Car aujourd'hui, le lithium, c'est le nouvel or blanc. À l'instar du pétrole au XXe siècle, il devient un levier d'influence mondiale. Avec ses réserves, la Chine peut non seulement peser sur les prix, mais aussi sur les échanges commerciaux et les dépendances internationales. Cette expansion profite également à des industries locales, la fabrication de batteries, véhicules électriques, des secteurs clés pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Un objectif ambitieux, appuyé par une volonté claire, dominer les marchés mondiaux du véhicule électrique, où la Chine possède déjà une longueur d'avance. Et enfin, cette avancée place Pékin devant ses concurrents, comme les États-Unis ou l'Europe, encore en quête de leur propre capacité d'extraction et de traitement.
Cléa Broadhurst pour la chronique matière première. Pour le dire simplement, les talibans ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains. Ces mots prononcés hier sont ceux de la prix Nobel de la paix. Il faut dire que les droits des femmes en Afghanistan sont de plus en plus restreints. Depuis le retour au pouvoir des talibans dans le pays, les femmes ont disparu du gouvernement, de nombreuses entreprises, des collèges, des universités, des rues, tout simplement. Et l'ONU le révèle, cela a des conséquences dramatiques sur la santé mentale des femmes. 78% des Afghanes ont déclaré avoir une santé mentale mauvaise ou très mauvaise, et 8% ont dit connaître au moins une autre femme ou une fille qui avait tenté de se suicider. Afghanistan, la longue nuit des femmes, c'est un grand reportage signé Sonia Ghezali. En voici un extrait.
Dans les faubourgs d'Islamabad, Nargis, ancienne championne afghane de Muay Thai, elle aussi réfugiée, a décidé d'aider ses compatriotes afghanes via sa passion. Elle réserve le rez-de-chaussée de la maison qu'elle loue avec son mari à des cours de fitness et de Muay Thai qu'elle enseigne à toutes les réfugiées afghanes qui se présentent à sa porte. Les cours sont gratuits malgré les difficultés économiques auxquelles l'ancienne sportive de haut niveau est confrontée.
Viens, Allah. Allah, à ton tour. Viens, montre-moi les coups. Ok, je veux un tip kick. Bravo, tip kick.
Nargis a aussi connu la dépression, même après avoir fui l'Afghanistan. Les réfugiés afghans n'ont pas le droit de travailler ou d'étudier dans le système public au Pakistan.
Avant de commencer à faire de la gym, j'étais désespérée parce que je me disputais tout le temps avec mon mari. J'étais impatiente, j'étais déprimée, je me rongeais les ongles. Mais lorsque je suis sortie un jour et je suis restée longtemps dehors à marcher, je me suis dit, ok, j'ai des compétences très importantes et que je maîtrise parfaitement, je peux donc commencer à les utiliser et je peux ainsi gagner de l'argent et aider les autres réfugiés afghans. J'ai commencé cette activité et elle m'aide aussi en retour, vraiment, ça m'aide.
Nargis a plus de 70 élèves, toutes assidues et déterminées, arrivées à ses cours dans des états de désespoir dont elle se souvient.
La première fois, mes élèves étaient si peu nombreuses. 2-3 élèves seulement venaient parce qu'elles ne savaient pas ce qu'était le Muay Thai. Mais je leur ai expliqué que c'est un art martial, je leur ai montré ce qu'on faisait. Et il y a aussi une belle danse. C'est comme un spectacle merveilleux. Et parce que ces élèves venaient d'Afghanistan récemment, elles disent que pour elles, c'était une bonne opportunité pour effacer tous les mauvais souvenirs d'Afghanistan qu'elles avaient. Vous ne pouvez pas comparer leur état de leur premier jour ici à leur état aujourd'hui. Il y a tellement de différences et elles sont heureuses maintenant. Elles sont pleines d'espoir, elles savent qu'elles ont un but. Elles se disent qu'il faut qu'elles prévoient des choses pour leur avenir, mais avant cela, non.
Ce grand reportage signé Sonia Ghezali est rendu possible grâce à des témoignages de femmes en Afghanistan recueillis par téléphone par Azina Akbari. Ce reportage était écouté en direct et en intégralité aujourd'hui sur RFI à 12h10 et 20h40 heure de Paris ou à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Le journal dans une minute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara sera-t-il candidat à un quatrième mandat ? À 10 mois de la présidentielle, le chef de l'État assure qu'il n'a pas encore pris sa décision, mais qu'il est désireux de continuer à servir son pays. Vrai ou faux suspense, on en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Le journal en français facile.
C'est un français qui est dit dans une langue très claire et une langue qui est très simple.
Adrien Delgrange.
Je vous retrouve du lundi au vendredi pour un journal d'information internationale. 10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Personnellement, c'est une émission que j'écoute et que j'aime beaucoup parce que ça me permet de comprendre l'actualité et d'avoir une autre façon de dire l'actualité.
Retrouvez Adrien Delgrange pour Le journal en français facile tous les jours de la semaine à 16h temps universel sur RFI.